BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Merci d'être avec nous par FaceTime pour ceux qui nous regardent à la télévision. On a appris des chiffres qui sont évidemment inquiétants, mais qui sont aussi doublement inquiétants parce qu'on a l'impression que la France s'en sort moins bien que ses homologues européens. L'économie française, elle a ralenti de 5,8%, là où la zone euro ralentit de 3,8%. Est-ce que ça veut dire quoi? C'est vraiment la conséquence du fait qu'on a très mal géré la crise, Jean-Hervé?
Non, je trouve que c'est... D'abord, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions, parce que comment est-ce qu'on a calculé la réalité du PIB pendant la période qui était la période des confinements du premier trimestre? Deuxième aspect, ça dépend évidemment du moment où on a démarré le confinement. Et donc, je suis juste, disons, sceptique. Cela dit, c'est clair que on n'était pas très préparé à cette opération et que la méthode même du confinement joue de manière massive sur l'activité économique. C'est la raison pour laquelle ce qui va se jouer dans les 8-15 jours est absolument déterminant.
Le déconfinement va être essentiel. Le déconfinement,
va être absolument essentiel. Et il y a une sorte de confrontation de deux objectifs, sur le sanitaire et l'économique. Je trouve que le gouvernement a agi avec beaucoup de sagesse jusqu'à maintenant, dans des circonstances qui n'étaient pas faciles et dont ils ne sont pas responsables. Maintenant, il va falloir redonner au poids économique toute la partie qu'il a, parce que si on restait ces points que j'ai depuis fort longtemps, si on dépasse ces 2 mois de confinement, on sera dans une logique qui peut être celle d'une véritable explosion sociale. Donc, il faut faire très attention à ne pas, reprendre. Ça se fera progressivement, mais à reprendre vraiment à partir de la semaine prochaine.
Est-ce que vous dites là, Jean-Louis Lorenzi, que faites tous les dispositifs publics qui ont été mis en place, que ce soit le chômage partiel, les plans de soutien, de solidarité, il faut absolument consolider ce dispositif jusqu'au bout, quoi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de coronavirus, où il y a un moment, il ne faudra pas bien passer au plan de relance.
Alors, c'est ça le sujet. Il y a une première phase qui était celle, au fond, de la protection de notre système économique. Il a été bien mené. Ça a été, en réalité, un beau succès. Maintenant, on rentre dans une autre phase qui est une phase de transition qui est beaucoup plus compliquée, qui consiste en réalité à décider ce que vous venez d'évoquer, à quel moment on va arrêter le chômage partiel, à quel moment, etc. Quels sont les secteurs qu'on va sauver? Je pense à des secteurs qui sont majeurs comme la restauration. Si on ne trouve pas des solutions pour la restauration, on aura quelques centaines de milliers d'emplois de chômeurs de plus.
Vous voyez le chômage à combien? Le taux de chômage, à votre avis, fin juin, fin du deuxième trimestre, il sera à combien?
On aura, un minimum de 500 000 chômeurs de plus.
Oui, d'accord, ok, d'accord. Ouais.
Donc c'est quand même très significatif. Et troisième sujet, la relance, il faut bien la préparer, ne pas se presser. C'est celle qui va intégrer tout ce que vous venez de dire du patron de paperasse, tout ça. Tout ça, c'est au minimum octobre. C'est une autre phase. Il faut d'abord arriver à redonner confiance au pays. C'est vraiment une phase très délicate qui va se démarrer la semaine prochaine.
C'est ça. Donc là, on consolide. Et puis, le plan de relance, septembre, c'est presque un peu trop tôt, non?
C'est mon point de vue.
C'est votre point de vue.
Je trouve qu'il faut le préparer très sérieusement, bien piger à quel moment, dans quelle situation on sera, quel est le niveau de chômage, quelle est la partie, de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la modification, la nature même de la croissance que l'on peut accepter dans une situation où il y aura beaucoup plus de chômeurs. Tout ça doit être fait avec beaucoup, beaucoup de travail, de précaution. Et je suis convaincu que c'est l'ambition du gouvernement, mais faut-il encore vraiment qu'on prenne le temps?
Ben justement, ça fera le lien avec le monde d'après, les rencontres économiques où nous allons chaque année avec vous, Jean-Hervé Lorenzi. Rencontres économiques qui ont lieu à Aix-en-Provence, là évidemment c'est pas possible. Du coup, vous les avez rapatriées à Paris, elle s'appelle maintenant Aix-en-Seine. C'est 3, 4, 5 juillet à Paris et c'est consacré au monde d'après. Un mot, on aura certainement l'occasion d'en reparler.
C'est consacré à tout. C'est-à-dire que tout début du mois de juillet, on sera, quand même au fond du trou. C'est le moment où on est la transition redémarre. Enfin, c'est quand même une période très compliquée. Nous sommes tous convaincus depuis 2 mois que les économistes doivent favoriser un débat avec l'ensemble des acteurs dans cette situation totalement inédite, totalement explosive que représentent ces mois que nous allons vivre. Et donc, le 3, 4, 5 auront lieu les rencontres Economy Dex. Effectivement, elles auront lieu à partir de la maison de la radio. Elles vont faire venir beaucoup de personnalités étrangères qui seront en visioconférence, beaucoup de personnalités françaises, beaucoup de personnalités européennes. Mais le sous-titre, vous vous souvenez que le titre, c'était « Agir face au dérèglement du monde ». Le sous-titre, c'est « On va s'en sortir ». Et on aura sans aucun doute un fait totalement nouveau, c'est que vous connaissez bien les rencontres d'Aix, c'était quand même c'était élargi, il y avait 5 000, 10 000 personnes, il y aura des dizaines de milliers de personnes parce qu'on va faire un streaming massif, le public sera avec en réalité vous. L'acteur nouveau.
Voilà, on sera avec vous. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, donc un plan de relance, mais pas tout de suite, il faut d'abord consolider les dispositifs actuels. Dans un instant, on va continuer à parler de ce monde d'après, parce que c'est sûr que les choses changent avec un chef d'entreprise que vous connaissez bien, c'est un habitué de BFM Business, Jean-Luc Petit-Huguenin, il est le patron de Paprec, il co-signe cette tribune sur le monde de demain, avec des grands patrons comme le patron de BNP Paribas, Bernard Arnault, Pierre-André Chalandard et bien d'autres encore. À tout de suite.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Et tout de suite, on prend Jean-Luc Petit-Huguenin qui est avec nous. On a découvert cette tribune qui est publiée dans le journal Le Monde. Je rappelle que vous êtes le patron de Paprec. Jean-Luc Petit-Huguenin, co-signateur avec 90 des plus grands dirigeants de l'économie française. Mettons l'environnement au cœur de la reprise économique. On va rappeler que vous êtes une entreprise de recyclage, notamment recyclage des déchets. Jean-Luc Petit-Huguenin, pourquoi vous avez signé cette tribune ?
Eh bien, parce que ça me semblait nécessaire. Il y avait toute cette polémique autour de l'idée ou pas qu'on pourrait construire un avenir en mettant entre parenthèses l'écologie. Et je suis impressionné par la qualité des signataires. Je ne sais pas si vous avez fait attention, Edwige. C'est impressionnant, tous ces patrons qui signent. On veut une planète plus verte. Je trouve ça éminemment positif.
Oui, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas un peu dans, dans le bien-pensant ? Parce que tout ça, c'est bien beau, mais il y a quand même des économies. Il faut retrouver. C'est un peu ce que disait du reste le MEDEF, notamment cette lettre qui avait été révélée par le Canard Enchaîné à propos de l'économie circulaire en disant on ne peut pas le mettre en place en même temps, on ne peut pas traverser cette période difficile. Et en même temps, nous demander d'être de laver plus propre que qu'avant.
Non, Edwige, si vous m'autorisez, je pense qu'il y a un problème de temporalité. Ouais. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va à horizon 10 ans, 20 ans, 50 ans ? Je vous dis de façon claire, de la même façon que tous ces signataires de cette tribune, on va vers une planète plus verte. Ça, c'est clair.
D'accord.
Là, vous me posez une question sur le timing. À quelle vitesse on va y aller ? Et là, on peut avoir des petites divergences entre ceux qui veulent accélérer, ceux qui veulent décélérer, et des gens qui, comme moi, disent à un grand malade, on ne fait pas faire le 1000 mètres le lendemain matin de la même façon que ce qu'on avait prévu. Les joueurs, j'adore le rugby, les joueurs de top 14, ils ont besoin de se réentraîner. Demain matin, ils ne peuvent pas jouer un nouveau match comme ça. Donc moi, je vois l'économie française de la même façon, mais je pense que c'est important que nos concitoyens réalisent qu'on veuille un environnement plus vert, une planète plus verte. Et moi, j'ajoute aussi, parce qu'on le retrouve un peu en filigrane, on veut aussi plus de solidarité, plus de local, plus de Français qui font des choses ensemble.
Mais est-ce que c'est possible ? Vous avez créé votre entreprise, Jean-Luc Petit-Huguenin, et maintenant vous êtes un leader, vous avez quoi, 10 000 salariés ? Est-ce que c'est possible ? Vous voyez, je veux dire, ici on est sur BFM Business, on peut dire les choses, quoi.
Exactement. Mais écoutez, non seulement c'est possible, mais j'y crois et je ferai tout pour démontrer que c'est possible. Oui, on peut faire plus de recyclage en France. Oui, on peut refabriquer du plastique avec du plastique. Oui, on peut faire de l'acier avec des vieilles voitures. C'est tout ça, c'est possible. Ça crée de l'emploi et au lieu d'acheter de l'acier en Chine, produisons-le en Europe. avec des réglementations. Oui, mais écoutez, au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
D'accord.
On arrête de vouloir tout importer. On accepte tous. Et il y a des changements des consommateurs. Il faut aussi que le consommateur, il accepte de payer un peu plus cher. Son marteau fabriqué en Europe, il va coûter plus cher que fabriqué en Chine. Mais à la fin, quand même, sauf erreur, hein, s'il y a des dispositifs en France pour le chômage ou pour la retraite, ils ne sont pas financés par Pékin. Et donc, voilà. Il faut peut-être qu'on soit aussi conséquents, hein, les uns et les autres.
Et ben voilà, c'est en tout cas une grande gueule de l'économie de l'entreprise qui dit ça. Jean-Luc Butugna, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc,
non,
le patron de Paprec et cette tribune à lire chez nos confrères du Monde. Mettons l'environnement au cœur de la reprise économique. Dans un instant, c'est Gonzague de Blinière. Lui, il est cofondateur du fonds d'investissement Raise avec Lara Guémard. Bah, justement, tiens, il y a Bonafé qui signe cette tribune, le patron de BNP Paribas, Frédéric Oudéa. Est-ce qu'il faut croire que la finance, elle peut être morale différente dans le monde d'après du monde d'avant? À tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Gonzague de Blinière, bonjour. Merci d'être là. C'est aussi important de montrer qu'il y a des gens qui viennent en studio avec toutes les précautions sanitaires. Elles sont très respectées. On fait très attention. Et croyez-moi, c'est important. Moi qui ai attrapé cette saleté de virus, il faut faire très attention. Gonzague de Blinière, vous avez créé avec Lara Guémard, qui ne peut pas être avec nous pour des raisons personnelles. Vous avez créé ce fonds d'investissement Raise. C'est un fonds qui s'est tout de suite positionné, je dirais, sur tout ce qui est la responsabilité économique et sociale, hein, on peut dire.
En fait, il a été démarré un peu en même temps que cette économie bienveillante qu'on a voulu créer, c'est-à-dire qu'on pense que l'argent, c'est une énergie, et plus on la partage, plus on la rend durable, et peut-être même profitable. C'est pour ça qu'on a créé Raise, qui est une structure d'un peu plus d'1,2 milliard maintenant, ouais. dans lequel l'ensemble des collaborateurs redonnent 50% de leur gain à une fondation.
Ah, justement, on parlera du monde d'après, parce que ça fait peut-être... partie du monde d'après que vous avez anticipé dans le monde d'avant, Gonzague de Blinière. Cela dit, vos participations là, vous avez lancé un peu tout un dispositif pour les aider à obtenir ces soutiens, à s'y retrouver dans les méandres d'aide publique qui existent, mais qu'il faut aller chercher. Mais parfois, pour des PME ou des start-up, c'est très compliqué.
Notre rôle, c'est d'être actionnaire, et c'est un métier en tant que tel. Donc, on a à peu près un peu plus de 30 participations dans les grandes et les petites. Les petites n'ont pas beaucoup de moyens pour se renseigner, les grandes non plus, mais on a été très actifs, comme tous les investisseurs en private equity, qui ont été très actifs pour essayer de recenser toutes les aides qui peuvent être offertes aux start-up ou aux ETI. Et nous, on a réussi à faire un peu de concentré de tout ce qui existe, et on a aidé beaucoup d'entreprises, dont une qui s'appelle Effort d'ailleurs, où on a aidé à avoir un PGE, un prêt garanti par l'État, qui n'est pas forcément facile à avoir, mais une fois qu'on a compris le processus, c'est assez efficace.
Ah, d'accord, bah, si vous avez un ou deux conseils là, pour ceux qui nous écoutent, les chefs d'entreprise qui sont un peu perdus, c'est quoi? Vous dites on y arrive?
Au chef d'entreprise qui se dit mince, je n'ai pas les critères pour avoir ce PGE, je pense qu'il faut qu'il
prêt garanti par l'État. Hein,
voilà, prêt garanti par l'État, par exemple parce que il a un bilan qui n'est pas forcément exceptionnel. Je lui dis au contraire, allez-y. Et d'ailleurs, même s'il a un problème, il peut appeler le médiateur du crédit si jamais il sent que son prêt garanti par l'État est refusé par la banque. Et celui-là peut aussi vous aider à avoir ce prêt garanti. La plupart des prêts sont obtenus.
La plupart des prêts sont obtenus. Ouais. Oui, mais alors souvent, enfin, moi, les témoignages que j'ai, alors même si Frédéric Oudéa le disait ce matin sur BFM Business, le patron de la Société Générale, c'est qu'il donne, quasiment tout de suite, mais il y a des difficultés quand même, non?
Alors, il y a des difficultés. Il faut savoir une fois qu'on a ce prêt garanti par l'État, il va falloir le rembourser. Ouais. Donc, on dit aussi aux startups...
C'est versé immédiatement?
C'est versé assez vite, oui.
D'accord, ok.
C'est versé assez vite.
C'est important.
Mais il faut le rembourser. Oui. Donc, se dire, finalement, c'est pas mal, je vais prendre cette trésorerie en garantie de l'avenir, c'est une bonne chose, mais encore une fois, c'est une dette supplémentaire. Donc, il ne faut jamais oublier que c'est un alourdissement supplémentaire du bilan des entreprises.
Oui, d'accord. Vous avez raison de le souligner. Comment se porte votre... vous êtes une des figures du capital risque, du capital investissement français depuis longtemps. Comment se porte aujourd'hui? Ça veut dire quoi, faire du capital investissement? C'est local l'occasion de rafler, parce qu'il y a des jeunes start-upers qui sont en difficulté ou des jeunes chefs de patrons d'entreprise.
On rafle personne. Nous, l'idée...
Non, mais vous, votre profession, j'entends, je fais un peu de caricature.
Quand on a créé Raise avec Larry Gamard, on a vraiment eu le sentiment qu'il fallait imaginer un monde d'après. Ouais. Et finalement, ce Covid-19 nous oblige à réfléchir à ce monde d'après. Nous, on a encore une fois une trentaine d'entreprises. Pas une seule d'entre elles n'a pas eu une initiative solidaire ou bienveillante. Mmh. C'est absolument hallucinant. Toutes les start-up ont des idées d'association, de solidarité, des initiatives. Par exemple, Bergamote qui distribue des fleurs à la PHP, une entreprise qui s'appelle Livestorm qui fait des webinars, c'est des systèmes de vidéoconférence gratuites pour certaines gens de la... Enfin, toutes ont eu une initiative solidaire. Donc on a le sentiment que ce mot de solidarité, qui était au départ à l'initiative de la création de Raise, sera le mot de demain. Donc ouais. C'est ça vraiment notre sentiment. Et le monde du private equity est à mon avis un des mondes qui peut démontrer qu'on peut être solidaire et transformer l'argent plus en énergie que faire de l'argent avec de l'argent.
Ben oui, mais en même temps, l'un des objectifs, c'est parfois de faire de l'argent avec de l'argent.
Bien sûr, mais par exemple, notre objectif, nous, c'est d'abord de donner. Plus on donne...
Oui, mais ça, c'est le fonds Raise.
Oui,
ça,
c'est mais les autres peuvent faire pareil. Ils peuvent faire pareil. Ils l'ont tous fait, tous. La plupart des fonds d'investissement ont eu des démarches. Nous avons une démarche avec Protège ton soignant, qui est une initiative de start-up. On a fait un don de 100 000 euros. Mais plein de fonds d'investissement ont eu des démarches. Donc, pourquoi ils l'ont eu au moment du Covid-19, alors qu'ils auraient pu avoir avant? Donc, espérons que cette démarche de solidarité, de don et de partage, qui n'est pas au détriment du profit, puisse continuer dans le monde d'après.
Oui, donc vous y croyez. Juste un point, je sais que ça vous a frappé ce matin. Donc, le patron de la Générale a dit qu'il allait arrêter les produits structurés. C'est ces produits, je veux dire, c'est la finance qui finance la finance, qui finance la finance, etc. Une espèce de spirale infernale dans laquelle nous sommes. Vous y croyez? Vous pensez que c'est important? Expliquez-nous pourquoi.
Moi, depuis très longtemps, je pense que quand on sophistique le produit financier pour gagner encore plus de l'argent avec de l'argent, ça nous met en risque quand les choses vont mal. Quand il y a une disruption de marché comme on a eu en 2008, ça a été pathétique. Là, c'est un arrêt de l'économie. Je pense que c'est un bon moyen, et il a été courageux de le dire, de remettre en cause des produits trop sophistiqués. Par exemple, s'endetter pour acheter des actifs cotés, c'est juste une aberration. Mmh. Vous avez des fonds qui sont endettés avec en face à l'actif des produits cotés. C'est juste une aberration. Or, tout le monde le fait. Donc, le produit structuré est trop sophistiqué. Et je pense qu'il faut revenir à des métiers simples. L'argent est une énergie. On le prête ou on investit, ou on achète des actions, mais pour longtemps, pas forcément pour le court terme. Donc, il a eu raison de poser la question au moins.
Ça sera le miracle du Covid, hein, en conclusion, Gozac de Blinière. Si jamais tout ça se passe, belle tribune avec ces 90 chefs d'entreprise qui s'engagent pour le monde de demain, ce que vous dites sur la finance...
On en parlait encore avec Larry Gamard ce matin avant d'arriver ici, malheureusement elle ne pouvait pas être là, c'est que le monde d'après, il faut le reconstruire maintenant. Mmh. Il ne s'agit pas de revenir au monde d'avant. Je pense que le rêve de tout le monde, ce n'est pas de redevenir comme avant. Bien sûr, c'est de vivre comme avant. Mais l'économie d'après devra être définitivement différente de celle d'avant.
Eh bien, merci d'être venu en tous les cas en studio nous apporter ce message. On va voir si ça se réalise. Merci beaucoup. Gozac de Blinière, donc cofondateur du fonds d'investissement Raise avec Lara Gemma. Dans un instant, c'est un peu la conciergerie médicale ou le Doctolib pour les entreprises. C'est Georges Aoun, il est patron de Concilio. La téléconsultation, vous savez, ça fait un malheur. Est-ce que le déconfinement, il y a beaucoup d'interrogations. On voit ça tout de suite avec Georges Aoun. Georges Aoun, merci d'être avec nous. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Donc, conciergerie médicale, ça vous convient à peu près comme définition de Concilio?
Bonjour Edwige. Accompagnement santé serait plus efficace et surtout beaucoup plus précis, puisqu'en fait, nous sommes accessibles par tout le monde, pas uniquement par une petite élite, mais en réalité par la totalité des collaborateurs d'une entreprise.
Ouais. Donc vous êtes très ciblé sur les collaborateurs des entreprises. Est-ce que depuis l'annonce et les conditions, les modalités de ce plan de déconfinement, est-ce que vous avez beaucoup d'interrogations, de demandes, de gens qui vous disent, mais question santé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire?
Concilio a été créé il y a 5 ans et effectivement, les 3-4 premières années, on a eu un vrai sujet qui était la pertinence de la santé dans le monde de l'entreprise. Ouais. Heureusement, et grâce au Covid, quelque part, en fait, ce sujet ne se pose plus aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est une denrée rare et que c'est un élément central dans la bonne santé des entreprises. Donc, on a eu beaucoup plus de demandes maintenant de nos prospects, de nos clients, en disant comment pouvez-vous nous aider pour qu'on accompagne et qu'on suive nos collaborateurs dans leur démarche de santé.
Oui,
que ce soit au bureau ou pour que ce soit chez eux.
Ouais. Jean-Jacques, la liaison n'est pas très bonne, donc je vais quand même essayer de vous poser deux, trois autres questions. Est-ce que donc c'est important ce que vous dites, la santé. Maintenant, les entreprises, de facto, c'est devenu une priorité, mais en tous les cas, c'est crucial pour une entreprise aujourd'hui, la santé de ses collaborateurs.
L'actif humain est un actif central, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs années, et la crise du Covid montre que la santé impacte fortement l'actif des entreprises. Donc oui, c'est un sujet dans lequel les entreprises doivent investir, et c'est un sujet qui, fondamentalement, est amené à se renforcer, à se développer dans les années qui viennent.
Oui. Alors vous êtes entrepreneur, hein, Jean Jaoud, mais quel message faut-il passer aux entreprises aujourd'hui? Quel message vous leur faites passer avec ce déconfinement qui est, on voit bien, qui est très très important pour tout le monde, pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour l'économie française?
Le déconfinement va avoir lieu, effectivement, à pas, en fonction des différents départements, mais la réalité, c'est que la santé des collaborateurs va être impactée aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, et que ce qui a été mis en place pendant 2, 3, 4 semaines, c'est quelque chose qui doit être pérennisé, c'est quelque chose qui fondamentalement est là pour aider les entreprises et les collaborateurs. Mmh. Donc nous, par exemple, on a vu une multiplication par 10 du nombre de téléconsultations au cours des dernières semaines, et cette multiplication répond à un vrai besoin. En fait, aujourd'hui, 30% des téléconsultations évitent un passage en urgence. Donc c'est un élément central dans la réassurance de nos utilisateurs et aussi dans la gestion des flux, donc dans la gestion de l'économie et de la santé en général.
Ouais, donc c'est important. Hein. Intéressant ce que vous dites, hein, que vraiment maintenant, l'actif d'une entreprise, vous l'avez toujours dit, mais maintenant les entreprises en voient plus l'utilité. C'est la santé, c'est vraiment l'actif humain, c'est très 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 important. Merci Jean Jaoud d'avoir été avec nous, président fondateur de Concilio, l'espèce de conciergerie, je sais que vous aimez moins le terme, mais comme ça on voit bien ce que ça veut dire, médical, l'objectif c'est d'aider toutes les entreprises. Merci beaucoup. C'est la fin de l'ORH. Ça y est, on se retrouve bien sûr demain. Tiens, demain dans l'ORH, j'aurai Martin Vial, le patron de l'APE, l'agence de participation de l'État. On va parler de Renault, on va parler d'Air France KLM, de la SNCF. Bref, la liste est très très longue, donc surtout à ne pas manquer Martin Vial, Cyril Hinette du PMU, et demain matin, c'est Cédrico, le ministre en charge de tout ce qui est numérique. On parlera de télétravail. À demain. Merci, bonne journée.